Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 7 mars 2025. Se sentir seul, vivre un problème de santé mentale ou encore être perdu face à des choix de vie, depuis quelques mois, la clinique Air Ouverte en Basseville organise des discussions entre jeunes de 15 à 25 ans pour parler sans tabou des défis de la transition vers l'âge adulte et des solutions pour y faire face.
On est face à une génération de jeunes adultes qui a vécu la pandémie. Il y a eu des impacts au niveau d'étapes quand même cruciales dans la vie d'un jeune adolescent, éventuellement d'un jeune adulte, où ils ont été plus isolés, qui ont eu moins accès à des ressources.
La prochaine rencontre abordera les freins qui empêchent d'aller chercher de l'aide et aura lieu lundi le 10 mars de 17h à 20h à l'Air Ouverte de Québec, au 260 boulevard Langelier. Pour plus de détails, consultez le reportage d'Alice Zanetta dans la section Actualité du CKIAFM.org. Les inscriptions au camp de jour de la Ville de Québec commencent dès le 14 avril. Les parents pourront réserver une place à la semaine au coût de 68 $. C'est 2 $ de plus que l'an dernier, mais la Ville affirme avoir le service de camp de jour le plus abordable de la province. L'élu du district de Louis XIV et responsable du développement social et communautaire au comité exécutif, Marie-Pierre Boucher.
Ensuite, je ne veux pas que les parents se posent la question s'ils sont en mesure d'aller travailler ou non. Si la question pour le parent, c'est « j'aurai pas les moyens d'envoyer mon enfant dans un camp de jour, donc je ne travaillerai pas », à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'économie qui est impactée.
Comme l'an dernier, ce sont 2000 emplois qui sont à combler pour cet été afin d'accueillir plus de 18 000 enfants. La liste des organismes qui dispensent des services de camp de jour est disponible sur le site web de la Ville de Québec. Ce soir, de 17h à 19h, a lieu le vernissage de l'exposition « Chemin fléché » au Centre Materia, en présence des artistes Catherine et Jeffrey Poirier. L'exposition se poursuit jusqu'au 13 avril. Le Centre Materia est situé au 395 boulevard Charest-Est. Également ce soir, à compter de 17h, les galeries Engram, Akwayaonke, Vue, La bande vidéo et L'œil de poisson dévoilent leur toute nouvelle exposition au Centre Méduse. Il sera également possible de découvrir la collection Méduse déployée sur tous les étages du bâtiment. Méduse est située au 650 Côte d'Abraham. Une friperie éphémère par et pour les personnes trans ou non-binaires a lieu aujourd'hui de 13h30 à 19h au Centre Jacques-Cartier. L'événement, qui se veut également social, est organisé par Tous te doux, une initiative citoyenne par et pour la communauté queer de la Ville de Québec. Pour tous les détails, visitez toustedoux.org. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Avant de pouvoir orner nos maisons de beaux objets, nous devons en dénuder les murs et nous devons dénuder nos vies, puis poser comme fondation une belle économie domestique et une belle vie. Mais le goût des belles choses se cultive plus adéquatement au grand air, là où n'est nulle maison, nul maître de maison. Mais les besoins les plus pressants sont-ils satisfaits de nos jours? Lorsque j'envisage d'acquérir une de nos luxueuses demeures, je suis vite rebuté, car la région n'est, pour ainsi dire, toujours pas adaptée à la culture humaine, et nous continuons à vivre dans l'obligation de couper notre pain spirituel en tranches beaucoup plus fines que les tranches de pain de froment que coupaient nos ancêtres.
Les anciens racontent qu'autrefois les Indiens avaient tenu là un powwow, sur la montagne dressée haut dans les cieux, d'une hauteur pareille à la profondeur de l'étang qui aujourd'hui s'enfonce loin dans la terre. La montagne trembla et soudain s'effondra. Seule une vieille squaw nommée Walden put survivre et c'est elle qui donna son nom à l'étang. Walden. Walden est un parfait miroir de la forêt. Rien d'aussi beau, d'aussi pur. Rien n'est aussi vaste qu'un lac à la surface de la terre. L'eau baigne la rive comme elle le faisait il y a 1000 ans. C'est l'œil de la terre où le promeneur, en y plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature.
Oh,
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va parler de jardinage, de sol, de terre, avec une jardinière bien connue dans la région de Québec, Lily Michaud, avec qui j'ai parlé un peu en fin de semaine, pendant la journée, ou la fin de semaine, en fait, de la fête des semences, fin de semaine que j'adore toujours, parce que c'est un peu comme si on mettait le premier petit orteil dans le printemps, puis qu'on commençait à anticiper nos jardins cet été. Alors, ça va être une émission, je dirais, plutôt printanière, je dirais. Avant de parler avec Lily, quelques lectures que j'ai faites cette semaine. Dans le Devoir de mardi, on parle des éclipses qui s'en viennent. C'est dans le mois de mars. Des éclipses animeront le ciel de mars. Le Québec pourra observer une éclipse lunaire totale et une éclipse solaire partielle d'ici la fin du mois. Le mois de mars sera particulièrement intéressant pour les amateurs d'éclipses québécois. Les couche-tard pourront observer une éclipse solaire totale dans la nuit du 13 au 14 mars, alors que les lève-tôt auront droit à une éclipse solaire partielle le 29 mars prochain. L'éclipse lunaire totale, pour ce qui est des éclipses lunaires, c'est la plus belle sorte, précise d'emblée Philippe Moussette, photographe et président du club d'astronomie Vega de Cap-Rouge. Au maximum de l'éclipse, la Lune deviendra entièrement rouge, un phénomène qui vaut le détour selon le chasseur d'éclipses. C'est sûr qu'on n'aura pas une éclipse solaire totale. C'était vraiment spectaculaire qu'on a eu au mois d'avril l'an dernier. Mais bon, en tout cas, c'était à surveiller. Alors, deux éclipses ce mois-ci. Ensuite, il y avait différentes choses dans Le Devoir que j'ai retenues. Je ne l'arborerai pas trop parce que c'est juste des choses que j'ai vues en passant. Manger québécois, vraiment, les producteurs et les détaillants québécois, alimentaires québécois réfléchissent à des solutions pour faire face aux tarifs douaniers américains. Alors, on s'enligne vers une espèce de problème au niveau des fruits et légumes, là, entre autres. Là. Alors, on va devoir songer à finalement consommer plus local. Peut-être aussi, dans l'article, c'est une personne qui vend des légumes au marché Jean Talon à Montréal. Elle dit, pour l'instant, 75% des produits qu'Andréanne Lucier vend au marché Jean Talon proviennent du Québec et du Mexique. Le quart provient des États-Unis. C'est le cas des haricots, par exemple, qu'il est difficile de faire pousser en serre en hiver. Ça ne serait pas nécessairement plus cher de faire venir des haricots du Mexique, mais il faudrait que je cherche. Je suis tellement habitué d'avoir des légumes des États-Unis en hiver, il va falloir que je creuse. Reste que les produits du Mexique sont plus coûteux sur le plan environnemental à importer parce qu'ils arrivent de plus loin. En tout cas, ça va être une réflexion qu'on va avoir à faire bientôt. Et peut-être qu'avec avec Lily, on aura des pistes là, de ce côté-là. Ensuite de ça, bien, il y avait des photos, des belles photos dans Le Devoir qui m'ont impressionné. Dans Le Devoir de jeudi, on dit un exode rural en Inde qui se fait sans les femmes, puis on voit deux femmes en train de cultiver un champ avec un sari. Ça m'impressionne toujours de voir comment les femmes en Inde sont toujours élégantes avec des saris très élégants en train de travailler dans un champ. C'est assez impressionnant. Puis une autre photo dans Le Devoir de jeudi, qu'on voit un père avec ses deux jeunes enfants en Palestine, à Gaza, dans un champ de fleurs, en train de cueillir des fleurs. C'est vraiment c'est touchant comme image. On voit les ruines derrière, puis la nature, une belle nature pleine de fleurs. Tout ça pour dire que la nature, elle est résiliente malgré tout, malgré la destruction qu'il y a derrière. C'est une belle photo, t'es dans Le Devoir là, de jeudi. Aussi, dans les kiosques, présentement, il y a le dernier numéro du 1. Le 1, c'est un hebdo qui sort à chaque semaine, que moi, j'aime bien. C'est sûr qu'il n'est pas facile à trouver. Il faut aller dans des kiosques de journaux spécialisés. Mais le numéro de cette semaine, le 1, c'est toujours un thème par numéro. C'est une sorte de petit journal avec un sujet. À qui appartient la nature? Alors, c'est une réflexion sur ça. La nature, elle appartient à qui? On l'a privatisée, mais en fait, il y en a beaucoup qui réfléchissent à ça. Est-ce que la nature ne devrait pas plutôt dire que la nature appartient à personne? Et puis, on commence au début de la première page, on dit ce que disait le philosophe Jean-Jacques Rousseau. Le premier qui, ayant un enclos, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Alors, on va parler de la terre, justement. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, on va avoir une discussion avec Lily Michaud sur le jardinage, la nature et la terre.
L'amour infini.
Alors, c'était Robert Charlebois, la chanson « Sensation ». C'est un poème d'Arthur Rimbaud que Charlebois a mis en musique. Il a fait quelque chose de formidable. C'est vraiment beau. On dirait que c'est un mariage parfait entre le poème et la musique. Avant ça, on avait eu, comme d'habitude, Richard Séguin, Walden et... Walden, en fait, oui, c'est ça, la chanson Walden. Et comme d'habitude, je vous ai lu justement un extrait de Henri-David Thoreau, Walden, en début d'émission. Alors, Lily, est-ce que tu es avec nous?
Je suis là, avec grand plaisir.
Bon. Alors, c'est ça, j'ai entre autres, ben, on s'est vu à la fête des semences, tu avais tous tes livres que tu as écrits sur le jardinage et tu présentais là, tous tes livres, mais surtout ton dernier livre sur le contrôle des insectes. Là. Alors, avant d'embarquer dans le cœur du sujet, ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être qu'il ne serait pas une mauvaise idée de juste...
De dire qui je
faire un oui, exactement.
OK. D'abord, j'habite à Québec, ça, c'est une chose.
Oui.
Moi, je suis agronome, mais dans mon ancienne vie, j'étais infirmière. Ça surprend bien des gens. Ils disent, comment ça? Il n'y a pas de lien, mais au contraire, il y a un lien très important. Quand, à 17 ans, je cherchais quoi faire dans la vie et je disais aux orienteurs, ben je m'intéresse à la santé. Alors, tout de suite, ils m'ont dit, ben tu devrais faire une infirmière. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait le cours. J'ai apprécié beaucoup le cours à étudier la biologie. J'ai adoré ça. Les stages où j'avais un patient ou deux, j'adorais ça. Quand je suis arrivée sur le marché du travail, la première semaine, je travaillais d'abord sur un département de cancer du poumon. Et là, j'ai réalisé que c'était pas la santé qui se passait là, c'était la maladie. Et que j'étais démunie devant la maladie parce que c'était vraiment des gros cas très importants qui étaient destinés à mourir ou à vivre leur dernier mois dans la souffrance. Et ça me désolait tellement. Je me disais, non, c'est pas tout à fait ça. Et là, je me suis posé la question, est-ce que je vais rester dans ce métier-là? Est-ce que je vais travailler de cette façon-là toute ma vie? Puis je voyais pas le jour où je pourrais éventuellement avoir un emploi comme infirmière pour faire la promotion de la santé. Pour dire, par exemple, aux gens de fumer pas, parce que justement, c'est des cas de cancer, c'est des gros fumeurs. Et je voyais pas le jour, c'était pas possible concrètement que je fasse de la prévention alors que c'est ça qui m'intéressait. Alors, c'est de là que m'est venue l'idée de retourner sur les bancs d'école. Donc, j'avais travaillé 4 ans comme infirmière, je suis retournée sur le banc d'école, j'ai été obligée de retourner faire des cours au cégep, faire mon bac à l'université, toujours dans l'optique santé. Ça m'a toujours préoccupée, l'optique santé. Alors, faire une histoire courte, j'ai terminé en 88. J'ai eu plusieurs expériences de travail dans les gouvernements fédéral, provincial ou privé, mais c'était jamais santé, c'était jamais assez écolo. C'est pour ça qu'en 96, donc ça va faire 30 ans l'année prochaine, j'ai fondé ce que j'appelle aujourd'hui ma TTE, ma petite entreprise, qui est essentiellement un service d'éducation, de formation aux pratiques écologiques urbaines. Donc, c'est ça. Je donne des cours, des conférences, j'écris des livres. C'est ce qui me résume. Voilà.
Moi, j'aime beaucoup tes livres. Là. Entre autres, ton livre sur le compost, mais moi, en tout cas, j'avais toujours été sous l'impression, en tout cas, qu'une de tes spécialités, là, à Québec, en tout cas, c'était le compostage.
Puis... C'est effectivement une de mes spécialités, mais je suis obligée des fois de dire aux gens, je ne fais pas que ça, parce que les gens m'associent tellement à ça.
Oui.
Une année, on m'appelle Madame Compost, la reine du compost, c'était tellement ça que j'ai rien contre, mais je ne fais pas que ça, vraiment, moi, c'est... Oui, l'approche écologique, les bonnes pratiques, et c'est une pratique extraordinaire, mais la culture, justement, des plantes, les plantes comestibles, on s'entend, c'est ça qui m'intéresse. Je peux parler un peu des bégonias, mais je peux parler beaucoup des tomates. C'est vraiment ça qui m'intéresse, les plantes dont on peut se nourrir.
Mais moi, en tant que jardinier, j'apprécie les autres livres, mais j'aime particulièrement le livre sur le compost que tu as réédité, d'ailleurs.
Oui.
Il est
oui,
vraiment oui. bien fait, il est complet, il est bien illustré, il y a des tableaux. C'est un beau livre, il est vraiment intéressant. Puis la...
Mais moi, je suis très visuelle, fait que c'est pour ça que j'inclus beaucoup de photos. La plupart des photos, sauf pour le dernier, là, parce que c'était plus compliqué, ce sont mes propres photos que j'utilise.
Puis, ben nous, en toute simplicité, bon, c'est une émission qui porte sur la philosophie, comment bien vivre.
Ouais.
Puis, ben il y a un philosophe là, qui a écrit un livre là, qui est dernièrement connu, là, qui s'appelle Humus. C'est Gaspard Koenig, ouais. K-O-E-N-I-G. C'est un best-seller, puis c'est la philosophie du compost, parce que c'est un geste, le compostage, c'est plus que de recycler nos déchets. Il y a comme quelque chose de sacré là-dedans, je trouve.
Effectivement. Tu as raison. Puis, comme je dis aux gens, quand je parle des avantages de faire du compost, mis à part l'économie écologique, etc., mais c'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose de concret, d'avoir produit, d'avoir aidé, parce que c'est pour nous vraiment qui font le travail, d'avoir aidé à produire quelque chose de très concret, et ça tout en protégeant l'environnement.
Puis, tu sais, je vais te lire un petit extrait d'un petit texte de justement Gaspard Koenig. Il dit: Or, le sol accomplit une fonction métaphysique fondamentale. Il transforme la mort en vie. Chaque gramme de terre recèle un univers où s'agite une foule considérable, une dizaine de millions de bactéries appartenant à plusieurs milliers d'espèces différentes, des millions d'algues unicellulaires, des milliers de champignons déployant leurs filaments et leurs spores, un millier d'amibes et de ciliés, des virus en pagaille, sans même parler des grosses bêtes visibles à l'œil nu, lombriques, plusieurs tonnes à l'hectare, arthropodes et autres collemboles, 10 000 par mètre carré. Toutes ces bestioles encore mal connues décomposent les molécules des corps inanimés pour permettre leur recomposition en de nouveaux êtres organisés. Il n'y a qu'à observer un compost pour comprendre comment un tas de résidus végétaux, pelures de légumes, papiers, branchages et restes alimentaires attirent toute une faune d'animaux minuscules qui le transforme en quelques mois en une terre noire hautement fertilisante. Dans cette perspective cyclique, la notion des déchets s'évanouit. C'est
vraiment bien dit. J'aurais pas pu le dire de meilleure façon. Moi, je dis souvent, quand on parle de jardinage, tout part de la terre. Tout part de là. La terre ou le sol, de façon plus globale, c'est le centre névralgique de tout ce qui se passe au jardin. Et c'est important d'apprendre à le connaître et à le dorloter. Des fois, pour le dorloter, bien, on fait le minimum. On essaie de pas trop intervenir. Donc, très, très important, là, tout ce qui se passe dans le sol.
Oui, puis moi, en tant que jardinier, je dis toujours aux gens, je cultive pas seulement des légumes, je cultive aussi un sol. Là. Il est vivant, sol. Là. C'est aussi vivant que les légumes qu'on mange. Là.
Oui, c'est une entité vivante.
Oui.
C'est une entité très, très, très importante.
Oui.
Vraiment.
Bon. Écoute, je pense qu'on pourrait prendre une petite pause musicale.
Oui.
Puis après ça, là, on va revenir plus dans le cadre du sujet du jardinage. Puis entre autres, on pourrait parler de ton dernier livre là, qui a été lancé là, ces jours-ci.
En fait, qui est sorti, mais qui est lancé bientôt.
Qui est sorti, c'est ce que je voulais dire.
Il est disponible.
Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, là, on va entrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui.
Parfait.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps, à quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles, où j'ai cru trouver un pays. cœur léger, cœur changeant, cœur lourd. Le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les roquets du piano là. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons, des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Renner Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au les suivent. Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte les civils. Remets du rimmel la tessile, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril, la 5 heures au petit jour, que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils
C'était René Claude qui chantait Léo Ferré, Est-ce ainsi que les hommes vivent? Une belle voix féminine à cette veille de la journée mondiale de la femme. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, en tout cas. Alors, on va revenir avec Lily Michaud qui nous va nous parler de son dernier livre.
Oui, je vais te reprendre.
Oui?
C'est pas mon dernier, c'est mon plus récent.
Ah oui, c'est vrai.
Un peu, puis en fin de semaine, à la fête des semences, j'ai taquiné bien des gens qui sont venus à mon kiosque.
C'est vrai. Parce
que je me disais, mais non, c'est pas mon dernier.
En
parce
fait,
que j'ai déjà un projet pour le prochain.
C'est ton combien
c'est
tième?
C'est mon plus récent.
C'est ton
huitième.
C'est ton huitième.
C'est mon huitième.
Puis avant qu'on commence, on pourrait justement parler du premier livre. Tu me disais que ton premier livre parlait de simplicité volontaire.
Oui, mon premier livre, c'était en 2004. Donc, il y a 21 ans. Le titre, c'est Le jardinage éconologique. C'est un mot de mon cru, là, c'est un néologiste comme ça. Et qui veut dire finalement
écologie et économie. Le sous-titre, c'était justement quand économie rime avec écologie. Puis, je parle beaucoup justement de simplicité volontaire parce que je dis souvent que pour jardiner, c'est pas nécessaire d'investir des centaines de dollars. On peut faire ça très simplement. Et c'est à l'avantage de notre portefeuille et de l'environnement. Alors, on a parlé de compost tantôt. Je dis souvent, c'est peut-être la pratique la plus écologique qui soit. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres à faire ses propres semis. Justement, il y en a été question beaucoup en fin de semaine à la fête des semences. C'est une bonne façon. Quand il vient le temps de se procurer des outils, c'est pas nécessaire d'aller acheter ça tout neuf puis d'acheter des choses pas de très bonne qualité. Il y a plein de gens là sur les sites de vente en ligne qui vendent leurs outils, qui partent de la maison, puis qu'il y a plein d'outils à vendre, des fois à donner. Fait qu'il y a plein de pratiques finalement qui sont à l'avantage de notre portefeuille et de l'environnement. C'est pour ça que je faisais un lien avec la simplicité volontaire, parce que d'ailleurs, je parlais dans les remerciements, je remerciais Serge Mongeau, le père de la simplicité volontaire, parce que c'est une inspiration là, pour ce premier livre-là.
Puis, tu sais, je pense à ça pour économiser, là, c'est que... on recommande les jardiniers maintenant, on recommande, faut mettre du paillis, faut préserver notre sol. Quand on parlait tantôt de cultiver notre sol, pour ça, il faut mettre un paillis. Mm-hmm. Puis la paille, c'est un beau paillis, mais acheter de la paille, c'est assez dispendieux. Là. Ben, c'est pas une fortune, mm-hmm. mais c'est quand même pas donné. Et on jette nos feuilles, j'en reviens pas, les feuilles sont en... Puis il s'agit, par contre, je pense que c'est mieux de pas un paillis de feuilles entière, c'est peut-être mieux pas, c'est mieux peut-être des déchiqueter un peu.
Si on est capable de les déchiqueter, c'est mieux. Puis effectivement, parmi les paillis que je suggère, parce que tu as raison, c'est une pratique que je recommande beaucoup, l'utilisation de paillis, mais je recommande d'abord les choses qui sont gratuites, qui sont chez nous. C'est justement des feuilles déchiquetées. Ceux qui ont encore du gazon, c'est pas mon cas, mais ceux qui ont encore du gazon puis qui font la tonte, dans les premières tontes là, du printemps, là, ça fait un paillis. Il y a plein de choses gratuites qu'on a chez nous, qu'on n'a pas besoin d'acheter. On n'a pas toujours besoin d'acheter. Au contraire, là. On regarde qu'est-ce qu'on a chez nous, puis on réutilise. C'est un cycle.
Ouais, moi, chez nous, je laisse mes feuilles en plus. C'est que, des fois, je dis, les gens me disent, mais tu laisses tes feuilles. Mais je dis, mais je ne cultive pas de la pelouse, je cultive un arbre. Parce que, dans le fond, les arbres, eux autres, ils sont contents que je leur laisse leurs feuilles.
Ils sont très contents. Comme j'ai à peu près plus de pelouse, très, très peu. J'ai juste une petite bande autour du patio. Des fois, je dis pour laisser un petit peu de place à mes petits-enfants pour courir. Là, j'ai vraiment très, très peu de pelouse. Donc, moi non plus, je les ramasse pas. Tout ce qui tombe sur mes jardins, ça reste là. Mais je vais voler des sacs de feuilles aux voisins.
C'est ça. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Les gens qui se débarrassent de leur trésor, ils réalisent pas qu'on envoie ça.
Un trésor tombé du ciel, c'est une manne.
Ouais.
C'est une manne à l'automne, là, quand je vois ça, ces quantités de sacs au chemin, ça me désole. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, mis à part le pays.
C'est en plus des sacs de plastique, puis en tout cas, c'est...
Ouais.
Dans le fond, puis l'ouvrage là, de ramasser ça, alors qu'on devrait les laisser, tout simplement.
Oui, c'est un pays naturel. Ouais. Donc ça, c'était, pour revenir à mes livres, c'était le premier. Puis le deuxième, ben, tu en as parlé, le compost. Le compost, au départ, le titre, c'était tout sur le compost. Quand il a été réédité, je n'ai pas trop compris, là, mais en tout cas, finalement, c'est pas mal le même. Il y a quelques petits... modification, mais maintenant, c'est le compost, pourquoi comment, qui est toujours un classique. Là. Les gens m'en parlent beaucoup là, de ce livre-là. Là.
Oui, ben c'est comme la référence à Québec, là, tu sais, quand on veut faire du compost. Là,
Je pense. Puis, tu vois, bon, après compost, si je me rappelle bien dans l'ordre, j'ai fait mon potager santé. Mon potager santé, là, c'est tout sur la culture des légumes à partir du semis jusqu'à la récolte. Lui, il a été réédité 3 fois. les gens disent, c'est ma petite bête. Puis quand les gens viennent me voir, comme en fait, semaine, à la fête des semences, ils me disent, hey, ce livre-là, là, il est tout sale, je la porte au jardin, les coins sont tous racornis. Je suis tellement contente. Je me dis, oui, c'est un outil de travail, ça. Faut l'utiliser au jardin, faut l'utiliser, faut s'en servir. Je fais beaucoup mes livres comme outil de référence. Fait que ça, c'était le troisième. Quatrième, puis je pense que tu l'as, celui-là aussi, guide de l'eau au jardin.
Oui.
Guide de l'eau au jardin. C'est vrai, c'est un petit guide tout petit que j'ai fait en collaboration avec Edith Mister. Où je parle non seulement de récupérer l'eau, parce que sur la page couverture, je fais de la récupération, là, mais il n'y a pas que ça. Comment minimiser les besoins en eau, première chose. D'abord, l'importance de l'eau, tout ce qui entoure l'importance de l'eau et pour notre vie, pour l'environnement. Comment minimiser les besoins en eau? Quand on a besoin d'arroser, comment arroser? Il y a bien des façons d'arroser pour qu'il soit plus efficace. Bien sûr, la récupération de l'eau puis d'autres pratiques. Fait que ça, c'est sûrement le petit guide, là, guide de l'eau au jardin. Après ça, j'ai fait... les fines herbes. Les fines herbes de la terre à la table. Bon, ben, je pense que tout le monde a déjà un peu cultivé des fines herbes. Puis souvent, je trouvais que les gens qui cultivaient des fines herbes, qui les utilisaient pas. Je trouvais ça dommage. À l'opposé, je voyais beaucoup de cuisiniers utiliser beaucoup de fines herbes, mais pas les cultiver. Fait que j'ai essayé de, dans ce livre-là, de venir en aide autant aux jardiniers qu'aux cuisiniers. Là, j'ai même inclus des recettes. Là, je me suis associée avec une cuisinière qui a inclus des recettes. Ce livre-là. Fait que toujours dans la table, la tomate après ça, parce que je suis une fan finie de tomates et je pense ne pas être la seule. Alors, j'ai écrit un livre juste sur la tomate. Puis quand je rencontre des gens justement dans les événements, ils me disent « Oh, moi aussi, je suis passionnée des tomates », ben je dis « Ben, c'est ça, c'est la tomate ». Je dis d'ailleurs au début de ce livre-là que la vie serait trop triste, l'été serait trop triste sans au moins un plat de tomate, au moins un, c'est un minimum. Après ça, j'ai fait, il y a 2 ans, germination et pousse. Donc, ça, c'est pour cultiver à l'intérieur toute l'année. Tout le monde peut faire ça. Il s'agit d'avoir une fenêtre. C'est simple. Et ça permet de consommer de la fraîcheur durant tout l'hiver, alors que des fois, il y en a moins dans le jardin. Là. Ça pousse moins dans le jardin. Et ça, finalement,
c'est du vrai local, ça, en tout cas.
C'est
ça peut pas être plus local que ça.
C'est de la table à la table.
Oui.
Tu sais, on dit souvent de la terre à la table, le plus court chemin possible. Là, on est dans la cuisine, on fait ça dans la cuisine, on récolte et on mange ça dans la cuisine. Ça peut difficilement... Le cycle le plus court. En matière d'environnement, je dis souvent, le cycle le plus court, c'est le meilleur. Fait que ça, c'est un cycle qui est très, très, très court.
Ça, les gens devraient développer ça. Surtout, là, en parlait tantôt,
oui.
Là, des besoins. On va devoir être plus autosuffisant. Mais ça,
oui.
N'importe qui peut faire ça chez lui. Là,
absolument. Je dis souvent, à moins de rester dans un igloo où tu n'as pas de fenêtre, là... Tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas personne qui n'a pas au moins une fenêtre. Fait que ça, c'est vraiment à la portée de tous. Et le plus récent, et non le dernier, comme je disais, protéger son potager des ravageurs et des maladies.
Bon. Fait que on pourrait peut-être justement là, aller un peu plus loin avec celui-là. Là.
Oui.
Moi, entre autres, ben. J'en avais parlé, mais j'ai comme une philosophie de permaculture, tu sais, d'avoir comme un dialogue avec la nature. Puis dans ton mm-hmm. livre, ben, tu parles de ça, là, tu sais, qu'on peut
oui.
travailler à... c'est pas qu'on veut détruire les insectes, c'est que certains insectes, il faut composer avec. C'est ça que tu donnes des trucs,
ouais.
comment...
Ouais.
Qui on les aime pas nécessairement, mais c'est pas tout le temps. Puis d'autres que eux autres, on les aime, on veut les attirer. Alors.
Ouais. Ça doit être une. Quand on jardine, il faut penser dans l'optique d'une collaboration et non pas d'un contrôle de la nature. Il faut aller dans le même sens que la nature. Je peux te parler d'une petite anecdote que j'explique, dont je parle dans mon livre. J'avais observé sur mes plants d'asperges des pucerons. Bon, moi, quand ça arrive, ça, je panique pas. Je regarde, j'observe. Je dis, bon, pour le moment, ça va. Il cause pas trop de dommages. Je laisse porter. Quelques jours plus tard, dans mon jardin, sur mon arbre de prunier, je pense, je vois une belle coccinelle. J'ai fait, oh, ma petite, j'ai du travail pour toi. Fait que je coupe la feuille tranquillement sur laquelle elle était déposée. Et je viens doucement, je la porte doucement pour la déposer sur mon plant d'asperges. Et là, j'observe des chrysopes Les chrysopes, c'est un ravageur, c'est un allié extraordinaire qui mange des pucerons. Donc, la nature était déjà au travail. Moi, je me pensais bien brillante en amenant un coccinelle, alors que la nature était déjà en train de régler le problème.
Ça aussi, dans le jardinage, justement, ce que j'aime de ton livre, c'est qu'il faut apprendre à connaître les insectes.
Faut apprendre. Le jardinage écologique, c'est pas une approche de solution toute faite. J'ai un problème, puis je mets un produit, puis c'est réglé. Donc, il faut respirer par les narines, il faut réfléchir, il faut apprendre, il faut étudier. Hein? Dans le mot écologie, l'écologie, c'est l'étude des êtres vivants et de milieux dans lesquels ils se reproduisent. Ben, quand on veut faire du jardinage écologique, il faut apprendre. Puis c'est très valorisant d'apprendre. C'est très, en tout cas, moi, je trouve ça passionnant. Je suis obligée d'apprendre pour écrire des livres. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
Comme moi, j'ai déjà eu des problèmes de verre gris, là. Puis j'ai lu, en fait, le verre gris, là, c'est la larve, là, qui sort. Ouais. C'est pas un verre, en fait, c'est une larve. Qui sort au début juin. Alors, si on sait qu'on a des vers gris, bien, il ne faut pas semer en mai parce que nos petits plants, ils vont se faire manger par les vers gris. Alors, j'ai tout simplement semé. Maintenant, je sème début avril ou aussitôt que le sol est dégelé. Puis mes plants sont assez vigoureux tout simplement, même je peux récolter des radis déjà, mais je récolte mes radis rendus au début juin quand les vers gris sortent.
De toute façon, on n'a pas le choix. Les radis, si on va en manger, il faut les semer tôt. Sinon, quand arrive la chaleur, c'est plus génial. C'est la même chose pour plusieurs. Fait que, oui, c'est une bonne approche.
Oui, fait que c'est ça, c'est d'apprendre à les connaître, puis c'est pas des ennemis, puis même le vert gris, il devient un petit papillon, puis ben là, quand il sort le papillon du vert gris au mois de mai, ben lui, c'est un pollinisateur, fait que... C'est pas des ennemis, là, c'est juste que la petite larve, elle a besoin de se nourrir, puis là, on préfère qu'elle aille se nourrir ailleurs que dans notre jardin, mais c'est bon.
On voit souvent les insectes comme des ennemis, absolument, automatiquement, il faut intervenir. Mais il faut savoir qu'il y a 0,05% des insectes qu'on va rencontrer qui sont vraiment nuisibles. Fait que ça, il en reste beaucoup, finalement, qui ne le sont pas, qui font simplement entrer dans la chaîne alimentaire. Ils sont utiles. Tous les insectes sont utiles. Parce qu'ils entrent dans la chaîne alimentaire.
Oui, nourrissent les oiseaux, etc. Comme pour les dorifores, là, les patates, est-ce que tu as un truc pour ça?
Oui. Bien, comme j'expliquais dans mon livre, moi, je trouve que la façon la plus efficace, c'est de les ramasser manuellement.
OK.
Puis d'ailleurs, si tu parles à quelqu'un qui a déjà été élevé sur une ferme où ses parents avaient un grand jardin, ils vont dire, hey, moi, quand j'étais petit, ils m'envoyaient ramasser les bébés à patates.
Okay.
Puis c'est encore la façon la plus efficace, tu sais, je trouve. Il y a d'autres façons, là, tu sais, on peut mettre un filet, mais moi, je me refuse à couvrir mon jardin totalement de filets, là. Je l'utilise dans certains cas. Mais je veux pas couvrir mon jardin, je veux le voir, mon jardin. C'est beau, un potager, on va pas cacher ça.
À la fête des semences, il y a un monsieur qui, je ne sais pas si ça marche, il dit, si tu sèmes des fèves autour de ta plate-bande de patates, là, tout le tour, là, les dorifores vont s'intéresser aux fèves vertes plus qu'aux patates, tu n'auras pas dans tes patates.
C'est en théorie, j'ai vu ça à quelques reprises. Concrètement, j'ai jamais pu le vérifier, là. Mais en théorie, il y a quelque chose là-dessous. Là.
OK. Bon. L'émission avance. On va prendre encore une petite pause musicale. Pour retour, ben là, on va parler, on va conclure, dans le fond, quelque chose de précis que tu voudrais dire par rapport à ton dernier livre, ton livre le plus récent. Alors, on prend une petite pause, puis au retour, ben il va nous rester environ 5-6 minutes pour conclure.
C'est bien.
Thank you.
Alors, c'est Nathalie Choquette, c'était l'Ave Maria de Caccini. C'est une autre de nos très belles voix québécoises féminines. Alors, Lily, on revient avec Lily Michaud qui va conclure l'émission aujourd'hui. Elle va nous parler, entre autres, de son plus récent livre. Là. Je ne sais pas si c'est de ça que tu voulais, voulais nous dire en conclusion.
Oui, ça ressemble à ça. Ben c'est ça, protéger son potager des ravageurs et des maladies. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le feuilleter un peu. Je ne me souviens plus si on s'en est parlé.
Oui, oui, je l'ai feuilleté. Oui, ouais,
c'est oui. ça. Ben j'ai voulu justement produire un outil pour répondre aux besoins des jardiniers parce que dans mes conférences, c'est souvent des questions qui reviennent par rapport aux ravageurs et aux maladies. Puis, je voulais leur suggérer des solutions douces parce que non, j'utilise pas ce que j'appelle des armes de destruction massive, là, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à vouloir utiliser des produits très, très, très dommageants pour l'environnement et pour notre santé, ce qui n'est pas mon cas du tout. D'ailleurs, la section sur les produits, si on peut dire, sur les biopesticides, les gens vont constater qu'elle est assez réduite. Il n'y en a pas tant que ça de produits qu'on peut utiliser. Puis, si on a à en utiliser, c'est toujours en dernier recours. Parce que c'est pas parce que c'est naturel, en guillemets, que c'est pas nuisible pour nos alliés aussi. Donc, c'est ça. J'ai voulu faire vraiment un outil de travail. Encore là, une référence, parce que les gens vont pouvoir y accéder facilement. La première partie, d'abord, je parle de prévention. L'approche écologique, je le répète souvent, c'est d'abord une approche santé, une approche de prévention. Fait qu'il y a toute une première partie prévention où je parle beaucoup, beaucoup de la diversité, justement. Un environnement diversifié, ça amène des organismes diversifiés et parmi ceux-ci, des alliés. C'est un peu le j'en ai parlé un peu tout à l'heure des alliés. Fait que la première partie est très, très, très importante. Faut vraiment passer à travers cette première partie-là. Faut vraiment la lire au complet. Puis après ça, là, je présente les ravageurs. J'en présente une quarantaine. Les ravageurs, dont plusieurs sont des insectes, j'ai l'habitude de dire c'est ceux qui mangent les plantes avant nous. C'est pas pour faire mal, parce qu'ils veulent se nourrir. Ben, des fois, on peut leur en laisser un peu, mais on veut pas toutes leur laisser non plus. Donc, une quarantaine de ravageurs où je parle justement prévention. D'abord, comment les reconnaître. On voit, il y a plusieurs photos pour essayer de les reconnaître. Ça, c'est une chose, hein, savoir à qui on a affaire. Ensuite, je présente des maladies. Les maladies, c'est causé par souvent des champignons microscopiques, bien sûr, des bactéries, des virus. C'est ce qu'on appelle des maladies. On voit pas vraiment le responsable, on voit les dommages qu'il fait. Et ça, par exemple, parmi les maladies, je parle du mildiou, et il y a souvent de la confusion par rapport à ça. Combien de fois les jardiniers vont me dire « Ah, j'ai eu du mildiou l'année passée », puis ils m'expliquent qu'ils ont eu, puis c'est absolument pas ça, c'est une autre maladie. Le mildiou, quand ça passe, on s'en rend compte. On a l'impression que le feu est pris dans le jardin, là, tellement ça va vite, vite, vite.
Oui, puis c'est les tomates qui souffrent.
C'est les tomates. Il y en a eu il y a 2 ans. Là. Moi, j'avais jamais eu ça en 40 ans. Et il y a 2 ans, j'ai été victime de mildiou.
Mais Lily, notre temps est terminé, malheureusement.
Oui, déjà.
Ça fait que, ben, oui, en tout cas, je rappelle à nos auditeurs, on avait Lily Michaud avec nous qui nous parlait de son livre le plus récent, qui, le titre encore, c'est
« Protéger son potager des ravageurs et des maladies ».
Et qui est en librairie. Je l'ai feuilleté justement en librairie hier. Il vient d'entrer là, dans les librairies. Là. C'est cette semaine, je pense. Alors, écoute, merci beaucoup, Lily. C'était fort intéressant. Espérons peut-être qu'on pourrait faire une autre émission une autre fois, parce que ça passe vite. On a beaucoup de choses à dire sur le jardinage. Peut-être au mois de mai ou juin, là, quand on va commencer nos jardins. Peut-être que ça serait intéressant de faire une émission sur le jardinage.
Oui. Ben oui.
Si ça te tente.
Pas de problème.
Fait que, ben, merci encore. Aussi. Puis, ben, à la prochaine.
Merci. Puis, bonjour à tous. Bonne saison de jardinage.
Mais oui, merci à toi aussi. Alors, bonne semaine tout le monde. Puis on se voit la semaine prochaine. On va parler d'une réflexion philosophique sur l'identité. Alors, bonne semaine à tout le monde.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Québec réveille, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs.